Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez tout ouïe, non ?
Non.
Voici les merveilleuses histoires que se racontent les grands-enfants d'Afrique pour s'amuser la nuit autour du feu et ne pas s'endormir à cause des bêtes qui rôdent.
Petit conte nègre pour les enfants des Blancs. Blaise Cendrars.
Le mauvais juge.
Un jour, raconte-t-on, il se passa ce qui suit.
La souris avait grignoté les vêtements du tailleur. Le tailleur alla trouver le juge, qui était pour lors le babouin, toujours en train de dormir. Il le réveilla pour se plaindre de la façon suivante.
« Babouin, ouvre tes yeux !» Tiens, regarde, voilà pourquoi je viens te réveiller. Il y a des trous partout. Oh, c'est la souris qui a déchiré mes vêtements. Mais elle dit que ce n'est pas vrai. Elle accuse le chat. Le chat, lui, proteste malicieusement de son innocence et prétend que c'est le chien qui doit l'avoir fait. Le chien nie tout et affirme que c'est le bâton qui l'a fait. Le bâton rejette la faute sur le feu et soutient « c'est le feu qui l'a fait, c'est le feu !» Le feu ne veut rien savoir. Non, non, c'est pas moi, c'est l'eau, se contente-t-il de dire. L'eau feint de tout ignorer de cette histoire. Elle insinue pourtant que c'est l'éléphant le coupable. L'éléphant se fâche et met tout sur le compte de la fourmi. La fourmi devient rouge, court partout, bavarde, ameute tout le monde. Et eux tous s'entrequerellent et de crier si fort que je n'arrive pas à savoir qui, mais qui a déchiré mes vêtements. On me fait perdre mon temps. On me fait aller, venir, courir, attendre, patienter, discuter pour, finalement, me renvoyer sans me payer. Oh, oh, babouin ! Ouvre tes yeux et regarde ! Il y a des trous partout ! Oh, que vais-je devenir ? Maintenant, je suis ruiné !
Se lamentait le tailleur. Il n'avait pourtant pas grand-chose à perdre, le tailleur, car c'était un pauvre homme qui avait une grande femme maigre à la maison et beaucoup de petits-enfants, des garçons et des filles, et une méchante vieille qui se tenait toujours devant sa porte. Ce n'était pas sa grand-mère, non, ni la mère de sa femme, ni une étrangère. Elle était bien de la famille.
C'était une vieille sorcière qui s'était emparée de lui et des siens et qui les tourmentait beaucoup. Elle avait de longues dents et une lame de couteau dans le dos qui lui servait d'échine.
Et elle s'appelait la faim.
La faim habitait devant sa porte. Et plus le tailleur travaillait, plus la faim lui prenait tout.
Elle entrait chez lui sans vergogne.
Vidait ses calebasses et ses pots.
Battait ses enfants.
Se chamaillait avec sa femme.
Se disputait avec lui.
Si bien que le pauvre tailleur ne savait plus où donner de la tête.
Et voilà que maintenant, la souris venait de grignoter tous les vêtements des clients. Et qu'il ne restait que des trous.
Vraiment, c'était un pauvre homme que le tailleur. Et il était bien découragé.
C'est pourquoi il était venu réveiller le juge, qui était pour lors le babouin, toujours en train de dormir.
Oh, babouin, ouvre tes yeux et regarde. Il y a des trous partout.
Le babouin se tenait droit. Il était gros et gras et tout luisant de santé.
Il écoutait le tailleur en se caressant le poil.
Il avait prodigieusement envie de se rendormir.
Néanmoins, il convoqua les gens du procès. Oh, il avait hâte d'en finir pour reprendre son somme.
La souris vint accuser le chat.
Le chat désignait le chien.
Le chien criait après le bâton.
Le bâton indiquait le feu.
Le feu se retournait contre l'eau.
L'eau chargeait l'éléphant.
L'éléphant, en colère, rejetait tout sur le dos de la fourmi.
Et la fourmi ?
Elle vint aussi, la fourmi.
La fourmi rouge de rage.
La fourmi mauvaise langue.
Elle vint envenimer l'affaire.
Elle allait, venait, gesticulait, racontait des potins, des commérages, des calomnies.
Montant les uns contre les autres, compromettant tout le monde, sans oublier naturellement de plaider pour elle-même non coupable.
Ce fut un beau tollé. Tout le monde criait à la fois.
Et la confusion était telle, et la fourmi se démenait tellement que le babouin en avait le vertige.
Déjà, il allait pousser tout le monde dehors pour aller rejoindre son somme et dormir tranquille dans sa case, quand le tailleur le rappela à son devoir de juge, en criant plus fort que tous.
« Oh ! Oh, babouin ! Ouvre tes yeux et regarde ! Il n'y a que des trous partout !»
Le babouin était fort ennuyé.
Que devait-il faire ?
Et que cette affaire était compliquée.
Et puis, il avait tellement sommeil. Une si prodigieuse envie de se rendormir.
Ces gens auraient bien pu le laisser en paix et régler leur affaire eux-mêmes.
Il se tenait droit.
Il était gros et gras et tout luisant de santé.
Il regardait tout le monde en se caressant le poil.
Il ne songeait qu'à reprendre son somme. Alors il dit.
Oh, moi, babouin, juge suprême de tous les animaux et des hommes. Je vous ordonne, punissez-vous vous-même. Chat, mord la souris. Chien, mord le chat. Bâton, frappe le chien. Feu, brûle le bâton. Eau, éteint le feu. Éléphant, boit l'eau. Fourmi, pique l'éléphant. Sortez, j'ai dit.
Les animaux sortirent et le babouin alla se coucher. Et depuis ce temps-là, les animaux ne peuvent plus se supporter. Ils ne pensent plus qu'à se faire du mal.
La fourmi pique l'éléphant.
L'éléphant boit l'eau.
L'eau éteint le feu.
Le feu brûle le bâton.
Le bâton bat le chien.
Le chien mord le chat.
Le chat mange la souris.
Mais le tailleur, me direz-vous, le tailleur. Qui paya le tailleur pour les vêtements déchirés ?
Ah oui, le tailleur.
Eh bien, le babouin l'avait oublié, tout simplement. C'est pourquoi l'homme a toujours faim.
Il a beau travailler, le babouin dort toujours.
L'homme attend toujours justice.
Il a toujours faim.
Mais aussi, quand le babouin veut sortir de chez lui, vite, il se met à courir à quatre pattes pour que l'homme ne le reconnaisse pas.
C'est pourquoi, depuis ces temps-là, on le voit toujours courir à quatre pattes.
De par son jugement insensé, il a perdu la faculté de marcher debout.
Droit, debout.
Inishama wana wanyu wa itenga Utamaduni watu leo wende mbeli Wana wa moja waone tarehi
Dia, dia ini ya wanata Dia ini ya wanata Wazaje musi shangai Shama ini ya watu pia Watema ona wate Seka irenge mbanza
Shitema lagu Ula kaja balahe
Kaja ona
urembo Kula kangata natenga
Kaja ona
urembo Kula kato wazichenga
Kaja ona
urembo Zaino,
kaja ona
urembo kula kaja maore hatu
kaja ona
urembo kula kaja komori
kaja ona urembo mailera
tumbwanzaka
mailera
tumbwanzaka yo
mailera
tumbwanzanako
mailera
tumbwanzaka
mailera
tumbwanzaka yo mailera tumbwanzanako
mailera
Wanyu wa mapatosi, wanyu wa rumbu, wanyu wa mgala Mtamu shevanu sherizine, ngomaini rongolo wa mkombozi mm.
Impossible.
Impossible.
Il est un pays qui est le pays des orphelins.
Il est un peuple qui est le peuple des orphelins.
Il est un roi qui est le roi des orphelins.
Ce n'est pas un ogre comme la plupart des rois de la terre. Non, c'est un sage.
C'est un tout petit enfant qui n'a pas encore un an.
Et voici comment tout cela advint.
Il était un tout petit oiseau, pas plus grand qu'un roitelet, qui voltigeait dans les clairières et qui chantait.
Quand il chantait, il ne se passait rien, car le petit oiseau ne pensait à rien de mal.
Il n'avait besoin de rien. Il se contentait de voltiger dans la clairière et de chanter.
Un jour, un chasseur le surprend, le met en joue et tire son arc. Mais le petit oiseau va se percher sur la flèche et dit
« Laisse-moi donc, chasseur, je suis qu'un petit oiseau magique. Tiens, voici les foulées de l'éléphant et les traces de l'antilope. Suis-les et tu feras bonne chasse.
» Possible. C'est toi que je veux !»
repartit l'entêté chasseur.
« Eh bien, mon ami, tu perds ton temps. Tu ne m'auras jamais. Maintenant, je m'appelle Possible, Impossible. » Possible.
Et pour faire une niche au chasseur, il se laissa prendre à la main.
Fit le chasseur. Tu vois, hein? Qui est le plus fort?
Fit Possible, Impossible.
Ce n'est pas fini.
Comment? Tu récrimines encore? Tiens!
Et le chasseur lui coupa le cou.
Fit Possible, Impossible.
Ce n'est pas fini.
Alors, le chasseur le pluma. Mais Possible, Impossible fit encore.
Ce n'est pas fini.
Eh bien, c'est ce que nous allons voir,
dit le chasseur en l'attachant à sa ceinture.
Ma femme et mes enfants te mangeront.
Quand il arriva à l'entrée du village, le chasseur rencontra un de ses amis qui lui dit
« Ta femme et tes enfants sont morts.
Qui les a tués ?»
demanda le chasseur.
Ils ont eu la colique.
Fit Possible, Impossible.
Ce n'est pas fini.
Le malheureux chasseur ne répondit pas. Mais quand il fut chez lui, il coupa l'oiseau en petits morceaux et le mit dans une marmite sur un grand feu.
Possible, Impossible chantait en sourdine. Ce n'est pas fini.
Après plusieurs heures de cuisson, le chasseur tâta la viande.
Elle était aussi dure que crue.
Possible, Impossible chantait en sourdine. Ce n'est pas fini.
Des voisines, venues le matin chercher du feu, revinrent le soir pour le même motif.
La marmite était toujours à la même place, sur le grand feu. De l'intérieur de la marmite venait une voix qui chantait en sourdine. Je suis Possible, je suis Impossible, je ne veux pas cuire. Ce n'est pas fini.
Les femmes se sauvèrent épouvantés. Et bientôt, tout le village sut que le chasseur avait une marmite qui parlait.
Couvert de honte, le chasseur comprit enfin que l'oiseau ne cuirait pas. Et il s'empressa d'aller le jeter dans la forêt, à l'endroit même où il l'avait pris.
Hélas, ce ne fut pas un petit oiseau qui sortit de la marmite, mais bien une immense bête avec une gueule épouvantable.
Cette bête avala le chasseur, puis se dressant sur ses pattes, mangea la lune.
Il faisait nuit noire.
Alors, la bête qui fait peur se mit à marcher.
Elle faisait plus de bruit que le tonnerre avec sa queue longue de 100 coudées.
Quand elle arrivait dans une forêt, elle avalait la forêt. Et quand elle arrivait au bord d'un fleuve, elle avalait le fleuve.
Rien ne l'arrêtait. Elle passait partout.
Quand elle arrivait devant une montagne, elle avalait la montagne. Elle avala le lac, puis la plaine. Et ne fit qu'une lampée du marigot et de tous les pots cassés qui étaient dedans. Enfin, elle se trouva dans le village des hommes. Et comme les coqs allaient se mettre à chanter pour donner l'alarme, elle avala tous les coqs. Elle n'en fit qu'une bouchée.
Alors, elle redevint un oiseau. Mais un gros oiseau. Un gros oiseau de nuit gris cendré qui alla se percher sur le baobab au beau milieu du village.
À l'aube, quand les hommes sortirent de leur case, ils virent ce gros oiseau de nuit perché sur le baobab.
Ses yeux étaient fermés, mais son bec grand ouvert.
Il se tenait immobile.
Seul son cou se gonflait, se vidait, et sa gorge résonnait comme un tambour.
La première fois qu'il fit, les troupeaux défoncèrent l'enceinte d'épines où ils étaient parqués pour venir se précipiter dans son bec grand ouvert.
La deuxième fois qu'il fit, les cases et tout ce qu'elles contenaient, les pots, les calebasses, les marmites, se mirent à courir pour venir se précipiter dans son grand bec ouvert.
La troisième fois qu'il fit, les hommes et leurs femmes et leurs enfants et tout ce qu'ils possédaient comme armes et bagages devinrent fous, se mirent à tourner en rond pour venir se précipiter dans son bec grand ouvert.
Le grand oiseau avala tout, puis il ouvrit les yeux.
Le monde était désert.
Il avait tout mangé.
Il sauta encore du baobab pour aller picorer une cuillère à peau que quelqu'un avait perdue.
Il trouva encore un chien malade, une vieille natte et un petit poussin de pintade.
Il avala tout.
Il y avait encore des braises dans la cendre.
Il avala tout.
Il y avait encore un peu de fumée qui montait.
Il avala la fumée.
Il ne restait plus rien. Non, plus rien.
Alors, il remonta sur son perchoir et se tut.
Rien ne bougeait.
Tout à coup, l'oiseau entendit un tout petit bruit.
Petit bruit, petit bruit. Qu'est-ce qu'il crie?
Qu'est-ce qu'il dit?
Petit bruit de cri-cri.
L'oiseau ouvrit un œil.
C'était un tout petit enfant qui geignait.
On l'avait oublié.
Il était tout nu.
Seul au monde.
Il gigotait.
L'oiseau sauta du baobab pour le manger.
Mais une grosse sauterelle poussa d'un coup de tête le petit enfant dans un trou de rat.
L'oiseau avala la sauterelle, mais ne put attraper l'enfant qui avait roulé au fond du trou.
Le trou était trop petit. L'oiseau ne pouvait y enfoncer son gros bec.
Alors, l'oiseau remonta sur son perchoir et ne dormit plus que d'un œil.
Rien ne bougeait.
Oh, là-haut!
Ça clapote, ça tapote!
Qui travaille?
Que fait-on?
Oh, là-haut!
L'oiseau ouvrit l'autre œil.
C'était encore le même petit enfant.
Il avait déjà 3 mois.
Il était assis au sommet d'une termitière.
On l'avait oublié.
Il était tout nu.
Seul au monde.
Il gigotait.
L'oiseau sauta du baobab pour le manger.
Mais un fort termite poussa d'un coup de tête le petit enfant en bas de la termitière.
L'oiseau avala le termite, la termitière, mais ne put attraper l'enfant qui avait roulé au fond d'un terrier.
L'ouverture était trop étroite. L'oiseau ne pouvait y faire entrer son gros bec.
Alors l'oiseau remonta sur son perchoir et ne dormit plus du tout.
Rien ne bougeait.
Patapoum, qui raille?
Donc,
gong,
de,
fer,
à un,
que forge-t-on?
Qui frappe fort?
Patapoum.
L'oiseau cligna des 2 yeux.
C'était encore le même petit enfant.
Il avait déjà 6 mois.
Il travaillait dans une forge.
L'oiseau hérissa ses plumes de colère.
Quoi?
On martelait du fer.
Quoi? Quoi? En plein midi?
Un peuple de larves aveugles s'affairait tout autour de la forge.
Des milliers de vers sortaient par toutes les fissures du sol.
Tous charriaient du minerai et du charbon.
Il y en avait déjà un gros tas.
Un gros tas.
L'oiseau sauta du baobab.
Il se mit d'abord à manger tous les vers, toutes les larves. Mais il eut fort à faire, car il y en avait beaucoup.
Beaucoup!
Quand il voulut attraper l'enfant, l'enfant était dans la forge.
Alors l'oiseau mangea la forge.
Il eut beaucoup de mal, car il y avait beaucoup de fer.
Beaucoup de fer.
Des gros morceaux et de la limaille.
Beaucoup.
Beaucoup.
Quand il voulut attraper l'enfant, l'enfant courut se cacher dans le tas de minerais et de charbon.
L'oiseau lui courut après, mais il était lourd. Lourd.
Alors il se mit à picoter le tas. Tous les minerais, tous les morceaux de charbon. Il avala tout. Et il y en avait beaucoup.
Beaucoup.
Quand l'oiseau eut avalé le gros tas, l'enfant avait disparu.
Il ne trouva sous le tas qu'un petit coffret qui brillait comme le soleil et qui éblouissait l'oiseau.
Alors l'oiseau avala le coffret et s'endormit.
Il n'était pas encore rassasié, mais il était lourd, beaucoup trop lourd pour remonter dans son baobab. C'est pourquoi il se coucha par terre et s'endormit lourdement.
Il dormait, rien ne bougeait.
Crac, crac, crac,
crac, crac, cratacrac, crince.
C'était encore le petit enfant qui ouvrait le coffret.
L'enfant ouvre le coffret, il sort du coffret. Il était dans le ventre de l'oiseau.
Il y faisait tout noir.
Alors, pour y voir clair, le petit enfant ouvre le ventre de l'oiseau.
Chut.
Il ouvre le ventre avec un grand couteau.
Chut.
Il l'ouvre avec un couteau pointu comme un dard.
Il ouvre le ventre et tombe la tête en avant.
Il se fait une bosse au front.
Alors il pleure.
Voici le petit enfant assis par terre, tout nu. Il est seul au monde. Il se frotte sa bosse et il pleure.
Il pleure parce qu'il est seul au monde, qu'il s'ennuie. Et aussi parce que sa bosse lui fait mal.
Il entend des voix qui lui crient
« Merci au roi !
Merci au roi !»
Ce sont les bêtes et les choses qui sortent du ventre de l'oiseau.
Il y a là les forêts,
les montagnes,
la lune,
le lac,
la plaine,
le marigot,
même les vieux pots cassés que l'oiseau avait mangés.
Tous rentrèrent chez eux en criant à l'enfant
« Merci au roi !»
Puis vint les taureaux,
les bœufs,
les coqs,
les pintades,
les chiens,
les chats,
les cases du village,
les ustensiles de ménage.
Tous sortent du ventre de l'oiseau, vont se remettre en place en criant à l'enfant
« Merci au roi !»
Puis viennent les hommes,
les vieux,
les jeunes,
les femmes,
les enfants,
les captifs,
les guerriers,
les bergers,
les chasseurs.
Tous sont bien vivants.
Ils rient comme si rien ne s'était passé.
Comme ils trouvent tout à la même place, ils rentrent chez eux sans rien dire à l'enfant.
Alors l'enfant dit en voyant qu'on l'avait encore une fois oublié
« Merci !»
Et il se lève et rentre dans le ventre de l'oiseau.
Mais bientôt il en ressort avec mille et mille compagnons, tous plus brillants les uns que les autres et comme habillés de feu.
Ils montent en l'air, ils tourbillonnent au soleil et viennent s'abattre sur le village pour tourmenter les hommes.
Ce sont les peuples des mouches, des abeilles et des guêpes qui vivent de rien.
Ils sont innombrables.
Le roi, c'est ce tout petit enfant qui n'a pas encore un an.
On l'appelle le roi des orphelins.
Son peuple est le peuple des orphelins.
Et son pays est le pays des orphelins.
Les orphelins tourmentent beaucoup les hommes. C'est un ennui.
Possible.
Impossible.
Chante un petit oiseau, pas plus grand qu'un roitelet, en voltigeant dans les clairières et en attrapant les mouches, les abeilles, les guêpes pour en débarrasser les hommes.
Zaidi eba lilo dipe au kudu shitaku wae kajiraha ya shitanda matsozi ya intinzini uloza ta shitamba shanga manawasi uangalia matsoni afakavu tena wanadamu waliona imani amani amba mafikira yani arrive upureo uvurea maisha ya uyabuze timali tigari beroho tibega urofu imani tihari ata woho wake one love love rina jukuma mbelza wana wasi walezi kafadhalika madomana narilishi ilazimu maore fubuze hawa manamkini walezi wawo waamiwa na japawa.
C'est bon.
C'est bon.
Si tu coupes du bois dans la forêt, l'écho le répète.
Il y a un pays qu'on appelle l'écho-l'écho.
Dans ce pays, il y a un terrain couvert de petites et de grandes brousses.
On le voit très bien de la piste des porteurs avant d'arriver au village de Debout-Debout. Tout près du fleuve de Glouglou coule toujours dans un bas-fond.
Le fleuve est très profond à cet endroit. Il y a quantité d'hippopotames et de crocodiles.
La brousse y est épaisse, avec de très grands arbres. Mais personne ne va y chercher du bois, même pas du bois mort pour allumer le feu.
Si tu coupes du bois dans la forêt, l'écho le répète.
Fais bien attention.
Il monte tout à coup du fleuve ou sort d'un arbre.
Sauve-toi !
Un ancien porteur qui avait beaucoup voyagé, il s'appelait Sabunyama, décida d'un jour d'aller couper cette brousse pour établir son champ et s'y fixer. Il s'écrie
« Tiens, voilà un terrain qui n'appartient à personne. Je vais le remuer. »
Les gens du village lui conseillèrent de ne rien faire. Mais lui déclare ne pas vouloir renoncer à son idée.
Il prend sa hache et pénètre dans le taillis.
C'est bon, c'est bon.
Il se met à débroussailler, mais il n'a pas plutôt entamé une liane que...
« Qu'est-ce qui coupe ma brousse ?»
demanda tout à coup la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
L'homme a très peur, mais il répond tranquillement. « C'est moi, Sabunyama. Je veux faire mon champ ici. »
« Et qui t'en a donné la permission ?»
reprend la grosse voix de Guinaraou. « De Guinaraou, le roi des Guinées. »«
Personne ?» dit l'homme effrayé.
« C'est bon !» répondit Guinaraou.
Et Guinaraou d'appeler ses Guinées pour donner un coup de main à Sabunyama.
150 Guinées arrivent en riant. Des mille pattes et des mille bras.
En moins d'un jour, tout a été débroussaillé.
Quand la brousse abattue est bien sèche, Sabunyama va encore une fois dans le terrain pour y mettre le feu.
Il apporte du feu dans un petit pot, souffle dessus et pénètre dans le déchiffrement.
C'est bon, c'est bon.
Il commence à mettre le feu. Mais le feu n'a pas plutôt atteint une vieille souche que...
Qui est là ?
Demande tout à coup la grosse voix. De Guinaraou, de Guinaraou, le roi des Guinées.
L'homme a très peur, mais il répond tranquillement. C'est moi, Sabunyama. Je viens brûler la brousse qu'on a coupée l'autre jour.
Qui t'en a donné la permission ?
Reprend la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
Personne, dit l'homme effrayé.
C'est bon, répond Guinaraou.
Et Guinaraou d'appeler ses Guinées pour donner un coup de main à Sabunyama.
300 Guinées arrivent en riant, des mille yeux et des mille souffles. En moins d'un jour, tout a été brûlé.
Quand tout est brûlé, Sabunyama rentre au village et il reste jusqu'à l'hivernage.
Aux bonnes gens qui lui conseillent de ne pas persévérer, il déclare ne pas vouloir renoncer à son idée.
Il attend la saison des pluies.
Dès le lendemain de la première pluie, il va encore une fois dans ce terrain pour ensemencer son champ.
Il porte une pleine jarre de mil sur sa tête et pénètre dans la clairière.
C'est bon, c'est bon.
Il se met à ensemencer son champ, mais il n'a pas plutôt enfoui un grain de mil dans le sol que...
Qui est là ?
Demande tout à coup la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
L'homme a très peur, mais il répond tranquillement. C'est moi, Sabunyama. Je viens ensemencer ce champ qu'on a préparé dernièrement.
Et qui t'en a donné la permission ?
Reprend la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
Personne, dit l'homme effrayé.
C'est bon, répondit Guinaraou.
Et Guinaraou d'appeler ses Guinées pour donner un coup de main à Sabunyama.
500 Guinées arrivent en riant. Des mille tarots et des mille tarrières. En moins d'un jour, tout a été ensemencé.
Une semaine se passe et Sabunyama retourne encore une fois sur ce terrain pour arracher les mauvaises herbes. Il emporte sa grande houe d'Ada avec soi et pénètre dans son champ.
C'est bon, c'est bon.
Il se met à sarcler son champ, mais Dada n'a pas plutôt arraché une mauvaise herbe que...
Qui est là ?
Demande tout à coup la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
L'homme a très peur, mais il répond tranquillement. « C'est moi, Sabunyama. Je viens désherber le champ qu'on a ensemencé l'autre fois. »«
Qui t'en a donné la permission ?»
reprend la grosse voix de Guinaraou. « De Guinaraou, le roi des Guinées. »«
Personne, » dit l'homme effrayé.
C'est bon, » reprend Guinaraou.
Et Guinaraou d'appeler ses Guinées pour donner un coup de main à Sabunyama.
« 1000 Guinées arrivent en riant. 10 000 dents et 100 000 mandibules. » En moins d'un jour, tout a été nettoyé.
Une lune se passe et le mil a poussé.
Le moment est venu de le protéger contre les oiseaux. Contre tous les oiseaux qui tombent du ciel et remontent de la terre par bandes criardes et affamées.
On pousse des cris, on leur lance des pierres et tous les jours, Sabunyama apporte sa fronde et se met en devoir de chasser les oiseaux.
C'est bon, c'est bon.
Quand Sabunyama tourne dans le terrain, il y va seul. Il laisse sa femme et son petit garçon au village.
Un jour qu'il est malade, il envoie son fils à sa place. Il lui dit
« Tiens, voilà ma fronde. Quand tu pousseras des cris pour effrayer les oiseaux, tu entendras quelqu'un te demander « Qui est là ?» Réponds-lui « C'est moi, le fils de Sabunyama. »
Il lui donna sa fronde et il lui recommande encore.
« Et surtout, hein, ne t'avise pas de sucer des tiges de mil, sinon gare !»
Le petit garçon s'en va seul au champ. « C'est bon, c'est bon. »
Le petit garçon arrive seul au champ, mais il n'a pas plutôt déchargé sa fronde sur un oiseau que...
« Qui est là ?»
demande tout à coup la grosse voix de Guinaraou. « De Guinaraou, le roi des Guinées !»
L'enfant n'a pas peur, il répond. « C'est moi, le fils de Sabunyama !»
Alors, Guinaraou appelle ses gens pour donner un coup de main à l'enfant.
« C'est bon !»
À midi, on laisse les oiseaux tranquilles. Tout le monde s'en va se coucher pour aller prendre quelques instants de repos.
Le fils de Sabunyama en profite pour se glisser dans la plantation et cueillir des tiges de mil. Il les épluche, les casse et les mâche.
Comme c'est sucré, comme c'est bon.
Mais il n'a pas plutôt sucé une tige que...
Qui est là ?
Demande tout à coup la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
L'enfant n'a pas peur, il répond. C'est moi, le fils de Sabunyama.
Que fais-tu là ?
Reprend la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
Je casse une tige de mil pour en sucer la sève. Répond l'enfant, et il se met à mâcher des tiges.
Attends, je vais te donner un coup de main.
Alors, Guinaraou appelle ses compagnons de jeu pour donner un coup de main à l'enfant.
Comme c'est sucré.
Comme c'est bon.
Quelle bonbance. Avant le soir, tout a été mangé.
C'est bon.
Et voilà l'enfant qui n'ose plus rentrer au village.
À la nuit tombante, son père vint le chercher.
Quand... Sabunyama arrive à son tour dans le champ et découvre que tout a été détruit. Il se met en colère.
Il empoigne son fils pour le frapper. Mais il n'a pas plutôt donné une claque à son garçon que...
Qui est là ?
Demande tout à coup la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
L'homme est en colère. Il répond. C'est moi, Sabunyama.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Reprend la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
« Je frappe mon fils parce qu'il a mangé tout mon champ de mil !» répond Sabunyama. Et il se remet à battre son fils.
Alors, Guinaraou appelle ses compagnons de jeu pour donner un coup de main à Sabunyama.
« Comme on rit !»«
Comme c'est bon !»«
Quelle partie !» Avant minuit, l'enfant tombe mort sous les coups.
« C'est bon !»
Et voilà que Sabunyama n'ose plus rentrer chez lui.
À la naissance du jour, sa femme vient le chercher.
Quand la femme de Sabunyama arrive à son tour dans le champ et découvre son fils mort, elle se met à pleurer.
Elle se lamente et accuse son mari.
Elle n'a pas plutôt versé une larme que...
Qui est là ?
Demande tout à coup la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
La femme est toute en larmes. Elle répond. C'est moi, la femme de Sabunyama.
Et que fais-tu là ?
Reprend la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
Je pleure mon petit garçon parce qu'il mon mari l'a tué, répond la femme de Sabunyama. Et elle se remet à verser des larmes.
Alors, Guinaraou appelle ses compagnons de jeu pour donner un coup de main à la femme de Sabunyama.
Comme on pleure,
comme c'est bon.
Quelle farce! Avant l'aube, la femme était emportée par le fleuve.
C'est bon.
Et voilà que maintenant, Sabunyama est tout seul au monde. Il ne peut plus s'en aller.
Un insecte le pique. Il se gratte.
Mais il n'a pas plutôt commencé à se gratter que...
Qui est là ?
Demande tout à coup la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
L'homme a très peur. Il répond en tremblant. C'est moi, Sabunyama.
Et que fais-tu là ?
Reprend la grosse voix de Guinaraou. De Guinaraou, le roi des Guinées.
Je me gratte parce qu'une bête m'a piqué. Répond l'homme en claquant des dents.
Et qui t'en a donné la permission ?
Demande Guinaraou menaçant.
Personne ! Crie l'homme et il se met à courir.
Attends ! Je vais te donner un coup de main !
Alors, Guinaraou appelle ses gens pour aider Sabunyama à se gratter.
On lui gratte la peau.
On lui gratte la chair.
Bientôt on l'a gratté jusqu'à l'os. Sabunyama ne résiste pas. Il tombe mort.
C'est bon, c'est bon.
Depuis, Personne n'ose toucher à ce terrain-là.
On ne va jamais y chercher du bois, même pas du bois mort pour allumer le feu.
La brousse y est épaisse avec de très grands arbres et il y a des quantités d'hippopotames et de crocodiles.
C'est dans un bas-fond.
On le voit très bien de la piste des porteurs avant d'arriver au village debout debout.
Tout près du fleuve de Glouglou coule toujours.
Dans un pays qu'on appelle l'éco-léco.
Tout planté de petites et de grandes brousses.
Si tu coupes du bois dans cette forêt, l'écho le répète.
Sauve-toi!
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est-à-dire ?
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez toutes oui, non ?
Non.